Alors, ce matin, je vais vous proposer d'étudier un passage qui se trouve dans la Bible, bien sûr. Et on va lancer le diaporama. Alors, c'est une carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette carte, en fait, nous, on se situe tout en bas à gauche et tout en haut à droite, il y a un point B qui montre le glacier des Bossons. Et en fait, il y a un an, en août 2012, une valise diplomatique avait été retrouvée dans le massif du Mont Blanc. Elle provenait d'un crash d'un avion d'Air India en 1966. Un an plus tard, en 2013 donc, un alpiniste savoyard a fait une découverte incroyable au glacier des Bossons. Une centaine de pierres précieuses qui pourraient provenir de ce même vol. Le Dauphiné libéré du 26 septembre 2013, donc il y a quelques jours, titrait « Rubis, saphirs et émeraudes sortis du glacier de Bossons ». Le 9 septembre dernier, donc il y a une semaine tout juste, cet alpiniste en fait d'une vingtaine d'années, de la région de Bourg-Saint-Maurice, je l'ai entouré en jaune, de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, pousse la porte de la brigade de la gendarmerie de la commune de Haute-Tarentaise. Devant les militaires interloqués, il dépose une boîte métallique trouvée sur le glacier des Bossons en Haute-Savoie. À l'intérieur, plusieurs sachets contenant rubis, émeraudes, saphirs, pour une valeur oscillant entre 130 000 et 240 000 euros. Un véritable trésor d'une centaine de petites pierres précieuses rangées soigneusement dans plusieurs sachets. Selon l'article 716 du Code civil, faute de trouver l'identité du propriétaire, les pierres précieuses reviendrait donc à ce jeune alpiniste. Raison pour laquelle l'anonymat est requise, car il s'agit aussi de le protéger, le jeune. Donc voilà, à 3 heures de route de Grenoble, un jeune a trouvé un trésor, j'allais dire inestimable, mais un trésor estimable. Il a été estimé à environ 185 000 euros en moyenne. À sa place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous rendu la boîte ? L'auriez-vous rendu avec la totalité des pierres précieuses ? On ne sait pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prendre la voiture et faire 3 heures de route et puis gravir un glacier pour trouver un trésor inestimable. Il nous suffit d'ouvrir notre Bible. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Il nous suffit d'ouvrir nos Bibles au psaume 19. Psaume 19 Versets 8 à 15. La grâce de Dieu est inestimable. Il y a quelque temps déjà, j'ai fait une prédication sur la première partie de ce psaume qui était intitulée « Le Créateur est glorieux ». La deuxième partie, « Sa grâce est inestimable ». Je vous propose donc de lire le psaume 19 à partir du verset 8. Je lis dans la version du Semeur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. Toutes ses exigences sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elle donne la sagesse. Justes sont ses exigences. Elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur. Il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur en tire instruction, il y trouve un grand prix. Qui connaît tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur du péché d'orgueil, des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles. Reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. C'est un très beau psaume. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous fait du bien. J'ai découpé ce psaume en quatre parties. La première partie, des versets 8 à 9, nous dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous fait du bien. Le verset 8 le dit clairement. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. Des versets 8 à 9, David va enchaîner quatre affirmations, quatre vérités sur la loi de l'Éternel. À noter que dans la version Semeur, il est question de la loi de Dieu. Mais quand on regarde dans les notes, il précise bien qu'il s'agit du nom du Dieu de l'Alliance, c'est-à-dire l'Éternel. C'est bien la loi de l'Éternel. Et cette loi, l'Éternel l'a donnée sur le mont Sinaï, à son peuple. Il s'agit de la loi de Moïse. C'est la Torah, ou encore le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Elle contient, cette loi, notamment ce qu'on appelle le Décalogue, les dix commandements. L'Éternel a donc fait une alliance avec son peuple sur le mont Sinaï. Pour vous expliquer un peu ce que c'est que cette alliance, je vais vous citer des passages d'un livre que j'ai lu récemment et que j'aime vraiment beaucoup. D'où vient la Bible ? Est-elle fiable ? De Sylvain Romerowski. Je vous le recommande. Donc voici ce que dit ce livre. Après la sortie d'Égypte au mont Sinaï, le Seigneur a conclu avec le peuple d'Israël une alliance par laquelle Israël devenait son peuple et lui-même devenait son Dieu. C'est la fameuse promesse tripartite qu'on a entendue il y a quelque temps avec Tom Blanchard. « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et j'habiterai au milieu de vous. » Les cinq premiers livres du Pentateuque se présentent comme les documents relatifs à cette alliance. Dieu a conclu une alliance avec son peuple sur le modèle des alliances qui se pratiquaient dans le Proche-Orient ancien. Ces alliances régissaient les rapports entre un roi suzerain, et un autre roi ou un autre peuple. Cet autre roi ou cet autre peuple lui était assujetti. Il lui était assujetti parce que soit le roi suzerain l'avait vaincu militairement, ou soit il décidait de se mettre sous la protection de son roi suzerain, notamment à cause de menaces d'ennemis, par exemple. Lors de la conclusion d'une telle alliance, le suzerain rédigeait un traité stipulant les obligations auxquelles était tenu le peuple assujetti en échange de sa protection. Les clauses du traité étaient décidées unilatéralement par le suzerain et imposées au peuple. C'est le roi suzerain qui décide des clauses du traité. Ils étaient assortis de bénédictions en cas de loyauté envers le suzerain et de sanctions en cas de violation des clauses de ce traité. De façon analogue, Dieu, se constituant le Seigneur, le suzerain d'Israël, lui a donné un traité d'alliance. Cela a une signification profonde pour Israël. L'ensemble du Pentateuque fonctionne donc comme un traité d'alliance entre Dieu et son peuple. Et notamment lorsque le roi ou le peuple qui était assujetti au suzerain transgressait les stipulations de l'alliance, le suzerain lui envoyait ses émissaires. Ceux-ci étaient chargés de rappeler au peuple les lois de l'alliance. Au cours d'un procès intenté aux transgresseurs, ils dénonçaient les fautes commises sur la base du code de l'alliance. Et c'est exactement le rôle qu'ont joué les prophètes de l'Ancien Testament, comme Jérémie, comme on l'a vu. Envoyés par le Seigneur, les prophètes s'appuyaient sur la loi mosaïque pour reprocher au peuple ses péchés. Puis, ils lui annonçaient son châtiment à venir, selon les malédictions prévues dans la loi. Mais ils lui promettaient aussi le salut pour ceux qui se repentiraient. Voilà ce que j'ai tiré de ce livre. Ici, au verset 8 et 9 de ce texte, David nous parle du traité d'alliance, de ce traité d'alliance conclu entre Dieu et Israël sur le mont Sinaï. Il va donc ensuite mentionner quatre affirmations, comme je vous ai dit, quatre vérités. Ces quatre vérités sont: la loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Quatre affirmations qui concernent la loi de Dieu. Je dis qu'elles concernent la loi de Dieu parce que si on regarde de plus près les différents mots et selon les différentes versions, on a pour la première affirmation la loi de l'Éternel. Et ça, c'est dans toutes les versions. Dans la deuxième affirmation, le témoignage de l'Éternel ou les affirmations, dans la version Semeur, les affirmations sous-entendues de cette loi ou les affirmations de l'Éternel, dans tous les cas, ce sont les affirmations qui proviennent de l'Éternel. Les décrets de l'Éternel ou les exigences de l'Éternel ou ses ordres, la troisième affirmation. La quatrième, les commandements de l'Éternel ou les ordres de l'Éternel. David devait probablement trouver et faire référence à des choses qui sont dans la loi de son Dieu. Ces choses sont bien évidemment incluses dans la loi de Moïse, dans le Pentateuque. Je vous propose donc de synthétiser toutes ces affirmations par la loi de l'Éternel, simplement, car ils y font manifestement référence. Remarquez tout de suite, tout de même, que le verset 10 n'a pas tout à fait la même structure, le verset qui est juste après. Il n'est plus question d'un élément de la loi de l'Éternel, il est question de la crainte de l'Éternel. Et dans la seconde partie de ce verset, ce n'est plus un bienfait. Alors que juste au-dessus, on a la loi de l'Éternel est et elle nous procure un bien. On va passer à la diapositive suivante. Voilà la structure c'est toutes ces affirmations. La loi de l'Éternel est, un adjectif, virgule, elle fait du bien. C'est la structure qu'on retrouve dans presque toutes les versions, sauf la Semeur, celle que j'ai choisie, bien évidemment. Bon. Mais cette structure, voilà, la loi de l'Éternel ou un élément de la loi de l'Éternel est un adjectif et cette loi fait du bien. On a la loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie, par exemple. Mais j'ai choisi la version Semeur qui est un tout petit peu différente parce que je pense que c'est elle qui nous permet vraiment de comprendre le texte. Et c'est probablement, elle est aussi différente, notamment dans la structure, mais on retrouve tout de même cette structure, on la retrouve en filigrane, je dirais. La première des choses qui marque la différence entre la version Semeur et les autres, c'est qu'elle ne répète pas à chaque fois « de l'Éternel ». La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, elle ne répète pas cela à chaque fois. Et la seconde chose qui marque aussi cette différence, c'est que cette version, à deux reprises, au verset 8, je dirais, c'est, il est écrit, aux gens sans détour, elle donne la sagesse. Et au verset 9a, justes sont ses exigences. Cette version utilise en fait une tournure de phrase à mi-chemin entre Yoda et un langage normal. Est-ce que vous connaissez Yoda ? On va passer à la diapositive suivante. Yoda, un maître Jedi, une créature étrange de l'univers Star Wars. C'est un très, très, très grand maître, voire même le plus grand maître Jedi de la saga. Mais il est tout, tout, tout petit. Il mesure 66 cm. Il est vert, il est âgé de plus de 800 ans. Pour info, ses yeux ont été pris sur ceux d'Albert Einstein, d'après George Lucas, le réalisateur, pour lui donner un air intelligent et sage. Je ne sais pas si vous voyez là, mais bon, voilà. Et son nom n'a pas été choisi au hasard. Yoda se rapproche de Yodéa en hébreu, qui signifie « celui qui sait ». George Lucas voulait donc vraiment un personnage qui respire la sagesse, qui transpire la sagesse. Et ce personnage a une fâcheuse tendance a renversé totalement ces phrases. Il utilise la syntaxe complément, sujet, verbe. Totalement à l'inverse de nous, sujet, verbe, complément. Au lieu de dire « tu dois redouter le côté obscur de la force », lui dira plutôt « le côté obscur de la force, redouter, tu dois ». Voilà comment Yoda s'exprime. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez avoir un air sage. Heureusement qu'Albert Einstein ne s'exprimait pas comme ça. Vous vous imaginez la théorie de la relativité ? Oh là là. Bon, bref, la version sommaire se situe à mi-chemin entre une version à la Yoda et une syntaxe normale. Juste sont ses exigences, ça c'est... Non, juste ses exigences sont, ça c'est Yoda. La version sommaire, juste sont ses exigences, et la version normale, ses exigences sont justes. Voilà, bref, je ferme la parenthèse. Si on renverse les phrases dans la version sommaire, on retrouve grosso modo cette fameuse structure. La loi de l'éternel est, adjectif virgule, elle fait du bien. La loi de l'éternel est parfaite, elle nous redonne vie. Et les quatre adjectifs en question sont, dans la première affirmation, parfaite. Dans la deuxième, vrai ou, selon les versions, digne de confiance, véridique. Dans la troisième affirmation, elle est droite, son droit juste. Et dans la quatrième, elles sont claires, limpides, la loi de l'éternel. Voilà les quatre adjectifs. Ces adjectifs, en fait, sont mélioratifs, c'est-à-dire ils valorisent. Ils valorisent la parole de Dieu. Et j'ai choisi de les résumer par « parfait ». La loi de l'éternel est parfaite. Elle est parfaite notamment parce qu'elle provient de l'éternel. C'est l'éternel qui a donné sa loi à son peuple. Et Jésus lui-même dit, dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, verset 48. Donc, la loi de l'éternel est parfaite. Et cette loi a donc une valeur et elle nous fait du bien. Elle fait du bien à l'homme. Dans la première affirmation, elle nous donne du réconfort ou elle nous redonne vie. Elle restaure notre âme. Dans la deuxième affirmation, elle nous rend sage ou elle nous donne de la sagesse selon les versions. Dans la troisième, elle réjouit le cœur, elle fait la joie du cœur. Et dans la quatrième, elle éclaire la vue, elle donne du discernement ou elle éclaire les yeux. La loi de l'éternel est parfaite, elle nous fait du bien. Ce sont des bienfaits qui nous font un grand bien intérieur. Pour illustrer un petit peu, pour être réellement réconforté, vivifié, restauré, est-ce qu'il nous faut aller au cinéma et je ne sais pas, regarder le prochain film de Star Wars ? Je ne pense pas. Pour être réellement sage, nous faut-il nous exprimer comme Yoda ? Je ne pense pas non plus. Pour avoir du discernement, nous faut-il avoir les mêmes yeux que Albert Einstein ? Je ne crois pas non plus. Pour avoir de la joie, nous faut-il développer une nouvelle théorie et obtenir le prix Nobel de physique ? Non, non, non. Il nous faut méditer la loi de l'éternel. Et par extension, toute la Bible, qui est la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'aller au cinéma ou avoir d'excellents résultats dans ses études ou exceller dans son travail sont de mauvaises choses, bien au contraire. Mais je dis que la parole de Dieu est essentielle. Elle est primordiale, fondamentale, car elle aura des répercussions dans tous les autres domaines de notre vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible même, par la bouche de David. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3. Nous faisons l'expérience de cela, n'est-ce pas ? Quand nous méditons la parole de Dieu, nous nous sentons réellement réconfortés, restaurés, vivifiés. Elle nous met dans la joie. Nous acquérons du discernement et nous grandissons en sagesse. Une sagesse selon Dieu, pas une sagesse selon les hommes. Et la sagesse selon Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous dit le proverbe 1, Le Proverbe 1, verset 7. Donc, la loi de l'Éternel est parfaite, elle nous fait du bien. Elle nous demande à nous aussi d'être parfaits. Je vous ai cité Jésus dans le Sermon sur la montagne. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons chanté sévère en ses exigences. Le Seigneur est sévère. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, ça c'est une image qui représente Jésus sur la montagne et qui donne le serment sur la montagne. Et cette notion de perfection, soyez parfait, je pense que c'est ce que David essaie de nous faire comprendre au verset 10. Et c'est la deuxième partie de cette prédication. Le respect de l'Éternel doit être continuellement parfait. Le verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel ou le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. » Les différentes versions ici sont sur la même longueur d'onde. Sauf que parfois on a crainte à la place de respect, mais ce sont les deux des mots qui signifient la même chose. Je vous ai fait noter tout à l'heure que ce verset était différent de ce que l'on a dans la première partie, dans sa structure. On garde le verbe « être », la crainte de l'Éternel est pure. On conserve aussi l'adjectif « après ». Et après la virgule, on reprend le pronom personnel « il » qui fait référence au respect de l'Éternel, plutôt. Mais dans la seconde partie du verset, il n'est plus question d'un bienfait. Et au début, il n'est pas non plus question de la loi de l'Éternel. Il est question du respect de l'Éternel. Ici, dans la première partie, la loi de l'Éternel vient de Dieu. Et le Seigneur nous la transmet. Ici, il est question de notre respect envers Dieu. Elle vient de nous et elle est dirigée vers l'Éternel. On respecte l'Éternel, on le craint. Respecter l'Éternel, c'est respecter sa loi, c'est respecter sa parole. Tout à l'heure, je vous ai lu, lors de la conclusion d'une telle alliance, le suzerain rédigeait un traité stipulant les obligations auxquelles était tenu le peuple assujetti en échange de sa protection. Les obligations. Je dis bien, j'ai bien dit devrait. Ici, il est question de quelque chose que l'homme devrait, qui devrait émaner de l'homme envers Dieu. Car il nous faut regarder les caractéristiques de ce respect. Ce respect est pur. Quand vous cherchez dans un dictionnaire de synonymes, pur, vous trouvez complet, entier, absolu, franc, honnête, vrai, véritable, sincère, saint et parfait. Ce sont des synonymes de pur. Le respect de l'Éternel doit être parfait. La deuxième caractéristique, ce respect subsiste à tout jamais. Il subsiste à toujours. Subsister signifie rester, demeurer, durer, se maintenir, perdurer. Le respect de l'Éternel doit perdurer dans le temps. Nous devons respecter Dieu parfaitement et continuellement. Vous vous rendez compte? Parfaitement et continuellement. Connaissez-vous Caroline Hourier? Est-ce que quelqu'un connaît Caroline Hourier? Non? Très bien. Caroline Hourier, 21,18 sur 20 au bac, record historique, titre Le Parisien du 5 juillet 2013. 18 ans, 21,18 sur 20 au bac scientifique avec une option physique. Elle a eu 20 sur 20 partout, sauf en histoire où elle a seulement eu 19. Et aussi en EPS où elle a eu 14. Sa note la plus faible. Pour atteindre une telle moyenne, elle a bénéficié de 3 options facultatives, le chinois, le latin et l'anglais. Elle va poursuivre des études de physique, peut-être la prochaine prix Nobel de physique, on ne sait pas. Une note plus que parfaite au bac. Voilà ce que doit être notre comportement devant la loi de Dieu. 21,18 sur 20. Nous devons la respecter parfaitement, de manière constante. le respect de l'Éternel doit être continuellement parfait. Mais le problème, c'est que nous sommes très 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 loin de ce niveau de perfection face à la loi de Dieu. Nous sommes parfaitement pécheurs. Et là, on passe à la troisième partie, versets 13 à 14. Je saute volontairement les versets 11 et 12 pour le moment. Versets 13 à 14. J'ai donc dit, nous sommes pécheurs et pas qu'un peu, nous le sommes parfaitement. Dans ces versets, il est question de péché. Qui connaît tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Voilà la question que David nous laisse. Qui connaît tous ces faux pas ? Qui connaît tous ces péchés ? Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît tous ces péchés ? Personne. Oui. En fait, on a déjà assez à faire avec ce qu'on connaît déjà. Mais voilà ce que dit l'apôtre Paul. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Romains 1, verset 20. Tout comme c'est par l'intermédiaire des panneaux d'indication de la route qu'on se rend compte que l'on a enfreint la loi, par exemple, sur un panneau de limitation à 110 km/h, je suis en infraction. Si je roule à 120 km/h, je mérite une amende, j'enfreins la loi et je le fais consciemment. Je connais la loi et le panneau est là pour me le rappeler, mais j'enfreins consciemment, sciemment, volontairement. Mais ici, dans ces versets, il est question d'un autre type de péché encore. C'est ceux dont on n'a pas conscience, ceux qu'on ne connaît pas. Qui connaît tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Savez-vous qu'en Suisse, et Reynald m'a aidé ce matin, il est interdit de tondre sa pelouse le dimanche. Est-ce que vous le saviez ? Imaginez qu'on soit en Suisse et que cet après-midi, vous avez le projet de tondre votre pelouse et vous ne connaissiez pas cette loi. Eh bien, vous êtes en infraction, mais vous ne le saviez pas. Vous êtes quand même en infraction. Même pour ces péchés involontaires, on a besoin du pardon de Dieu. David demande pardon. Pardonne-moi les fautes dont je n'ai pas conscience. Ce texte révèle notre imperfection totale. Volontairement, nous sommes pécheurs. Involontairement, nous sommes pécheurs. Nous sommes misérables. Nous avons fait faillite devant la loi de l'Éternel. Nous sommes consciemment, inconsciemment pécheurs. Nous sommes donc très, très, très loin de la note plus que parfaite de Caroline, 21,18 sur 20 au bac. Note pourtant requise par la loi, verset 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Au verset 14, David poursuit. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Certaines versions, au lieu de pensées d'orgueil, ont garde-moi des présomptueux ou des orgueilleux. Et en fait, je me posais également la question et j'ai contacté Sylvain Romorowski, l'auteur de ce livre, qui est également prof en fait d'Ancien Testament à l'Institut biblique de Nogent, qui a travaillé sur l'Ancien Testament de la version de la Bible de la Semeur, donc de l'Ancien Testament, et il me dit ceci, la différence vient d'une ambiguïté de l'hébreu. Ambiguïté pour nous, mais les premiers lecteurs devaient savoir. On a là un adjectif qui, au singulier, signifie orgueilleux ou présomptueux. Au pluriel, il peut signifier les orgueilleux ou les présomptueux. Mais le pluriel, en hébreu, sert aussi à rendre l'abstraction, c'est-à-dire l'orgueil, d'où les deux traductions possibles. Il me semble que les dernières versions, les plus nouvelles, les plus récentes, la version second 21 ou la Summer, optent plutôt pour les pensées d'orgueil ou un sentiment d'orgueil. Et je pense que c'est un peu plus cohérent avec le contexte du texte. David est en train de se repentir, il demande pardon. Et il demande pardon pour son péché, il demande au Seigneur de le préserver de l'orgueil de son cœur. L'orgueil Le sentiment peut-être le plus pernicieux, le plus dangereux, il s'oppose à l'humilité. Orgueil, humilité. Un orgueilleux ne s'humiliera jamais devant le Seigneur pour lui confesser son péché. Il ne se reconnaît même pas pécheur, l'orgueilleux. Voici ce que dit la parole. Mais bien plus grande est la grâce que Dieu nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est Jacques 4, verset 6. Il cite aussi le Proverbe 3, verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. Henri Varrocksky, j'ai beaucoup du mal à dire ce nom, Henri Varrocksky est l'ancien proviseur de Caroline, notre futur prix Nobel de physique, vous savez. 21,18 sur 20 au bac. Et voici ce qu'il dit d'elle. D'après le Parisien, toujours, la jeune fille est d'une grande sagesse et d'une grande humilité. Elle est d'une grande sagesse et d'une grande humilité. Avec ses propres définitions de la sagesse et d'humilité, qu'est-ce que le Seigneur pense-t-il de nous ? Pense-t-il ou dira-t-il de nous que nous sommes sages, c'est-à-dire que nous respectons sa parole ou que nous le respectons ? Je l'espère. Dira-t-il de nous que nous sommes humbles, c'est-à-dire que nous reconnaissons notre péché et nous les lui confessons ? Oui, je l'espère, car c'est à de telles personnes qu'il fait grâce. C'est aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et cette grâce, elle est inestimable. C'est notre inestimable trésor. Et là, nous allons passer à la diapositive suivante. Cette grâce est notre inestimable trésor. Et on le voit en plein milieu du psaume, à la fin du verset 10 jusqu'au verset 12. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux, coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction, il y trouve un grand profit. David exagère. Il utilise une figure de style qui s'appelle l'hyperbole, qui consiste à exagérer l'expression d'une idée ou d'une réalité afin de la mettre en relief. David insiste lourdement sur la valeur des décrets de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que les décrets de l'Éternel ? Un décret, quand on regarde dans un dictionnaire, ça signifie décision. C'est la décision qui émane de l'autorité souveraine, celle qui a le dernier mot, celle qui a le pouvoir. C'est la décision de Dieu. Je pense que l'idée centrale du texte est ici. Devant sa loi qui est parfaite et que nous devons respecter parfaitement, et devant notre péché qui est parfait, le Seigneur décide de nous faire grâce. Le Seigneur décrète de nous faire grâce. Et c'est inestimable. Et c'est pour ça que David insiste lourdement, bien plus désirable que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Il y trouve un grand profit. D'où est-ce que je tire l'idée que les décrets de l'Éternel équivalent à sa grâce? Selon vous, quelle est la décision la plus importante, la plus précieuse que Dieu ait faite pour nous? Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Il a décidé qu'il mourrait sur une croix pour nous racheter. C'est la décision qui court toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Souverainement, il a décidé, et de toute éternité, il a décidé d'envoyer Jésus-Christ à la croix. Et c'est la décision la plus importante qui soit que Dieu ait prise en rapport à sa loi et à notre péché. Dieu décide de faire grâce. Et c'est pourquoi David multiplie ici les superlatifs. C'est vraiment l'idée centrale. Et je pense que le verset 15, qui est en quelque sorte une conclusion du psaume, nous pousse aussi à penser cela. « Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Dans les prières, quelqu'un a parlé de rocher, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quelqu'un de solide, sûr, et mon libérateur. Dans les autres versions, nous avons « mon rédempteur, toi qui me rachètes ». Il est question de grâce. Dans la première prédication, je mentionnais un texte de l'apôtre Pierre qui disait que l'apôtre David est un prophète, que David, le roi David, est un prophète. Ici, il prophétise. Le Dieu est son libérateur et son rédempteur. Et c'est la décision que Dieu a faite. Il nous fait grâce. Et c'est vrai, c'est vrai. Regardez au verset 10. Les décrets de l'Éternel sont vrais. C'est une certitude, c'est réel. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Romains 3, versets 22-24. Ces décrets sont vrais, ils sont réels. Ces décrets sont parfaitement justes. Ils sont parfaitement justes. La suite de ce texte dans Romains, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. Dieu est juste, il nous pardonne devant sa loi et notre péché, il nous pardonne. Mais notre péché ne reste pas impuni. Dieu est juste. Notre péché est retombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et cela est inestimable. C'est un trésor précieux. C'est un trésor beaucoup plus précieux que les pierres précieuses trouvées sur le glacier du Boson. Parce que ce trésor-là, il est inestimable, il n'a pas de prix. Un véritable trésor. Pour appliquer cette idée principale, il me semble, cette grâce qui est infinie, la première des applications, je pense, c'est qu'elle est vraie. Cette grâce, elle est vraie. C'est une certitude, c'est une réalité. Elle n'a pas de prix et elle est vraie. Et c'est vrai, Dieu nous pardonne. Soyons-en conscients, Dieu pardonne. Et si tu n'as pas encore accepté par la foi cette faveur imméritée, sache qu'elle est encore aujourd'hui accessible et je t'invite à la saisir maintenant. C'est une vérité, c'est une réalité. Devant sa loi, nous sommes pécheurs. Dieu décide par grâce, il décide de nous faire grâce, il nous pardonne. Une faveur imméritée. Elle est parfaitement vraie pour nous également qui croyons déjà en Dieu. Nous pouvons parfaitement faire confiance. C'est vrai. Dieu nous pardonne nos péchés. Voici ce que dit l'apôtre Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le mal. Soyons convaincus de cela. C'est une réalité, c'est une vérité. La grâce de Dieu est la chose la plus précieuse, la plus désirable qui soit, la plus savoureuse. Est-elle bien plus précieuse que la chose la plus précieuse à nos yeux? Peut-être notre voiture, peut-être notre maison, peut-être notre retraite, notre travail, notre compte en banque, notre épouse, notre époux, nos enfants, notre famille, nos études, ou bien même notre local, notre église, notre service, notre ministère. Est-ce que la grâce de Dieu est plus précieuse que toutes ces choses? Devant sa loi et notre péché, le Seigneur décide de nous faire grâce et c'est inestimable. Et c'est dans la Bible qu'on retrouve cette grâce. Elle court toute la Bible, comme je l'ai dit. Dans la première partie du psaume, le ciel raconte la gloire de Dieu. C'est la révélation générale. Et l'apôtre Paul dit « Tous les hommes sont inexcusables » parce que dans la création, nous voyons que Dieu est créateur. Nous voyons sa gloire. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Nous sommes inexcusables. La Bible, la révélation particulière, raconte la grâce de Dieu. Nous sommes excusés. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Nous sommes inexcusables. La Bible raconte la grâce de Dieu. Nous sommes excusés. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour cette grâce inestimable. Seigneur, ce n'est pas à prix d'or et d'argent que nous avons été rachetés de nos péchés, mais c'est au prix du sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort sur la croix, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Merci Seigneur, parce que devant ta loi, qui est parfaite et que nous devons respecter parfaitement, nous sommes, et devant notre péché, qui est parfait également, Seigneur, tu nous fais grâce, tu décides, tu décrètes de nous faire grâce, et nous te remercions parce que cette décision, Seigneur, elle transforme nos vies, elle transforme des vies, et elle change nos vies. Amen.